C'est parce que je suis proche du tien, peut-être. Donc bonsoir, merci d'être là. Alors, toujours dans le cycle de conférences, les ateliers du chercheur, on les a appelés comme ça. On est heureux cette semaine de recevoir Sophie Nizard, qui est maître de conf à Strasbourg. C'est Marc Bloch? T'es plus? T'es plus à Strasbourg?
Non,
Tu es où maintenant?
je suis chercheur au CIUFR.
Au CUFR, à l'EHESS. Et donc, qui
J'ai
longtemps.
enseigné à Strasbourg pendant 11 ans.
11 ans, ouais, ça suffit.
Voilà.
Point trop d'infos. Et donc, qui est au CUFR à l'EHESS et qui a longtemps travaillé sur les pratiques culinaires. Je me souviens de tes travaux sur les pratiques culinaires, notamment dans le judaïsme, et qui aujourd'hui va nous présenter un travail qui a été synthétisé, je te permets,
Bien sûr,
dans ce
c'est
travail,
amené pour qu'il circule.
publié l'année dernière. En 2012, hein,
2012.
aux éditions de l'EHESS, Adopter et transmettre, filiation adoptive dans le judaïsme contemporain, et qui fait suite à la conférence de la semaine dernière qui nous a été donnée par Sébastien Tanque, où il présentait les différents régimes d'autorité et où la question de la conversion au judaïsme était un moyen, effectivement, de mettre au jour les régimes d'autorité qui organisent la vie religieuse. Donc aujourd'hui, on est dans une conférence qui porte sur la sociologie du judaïsme au prisme de la filiation adoptive et qui, à mon avis, se marie extrêmement bien dans la suite des propos qui ont été tenus il y a quelques jours. Donc merci à toi d'être là et à toi de jouer.
Merci de me recevoir. Alors, 1 heure, on va essayer. On va essayer, puis sinon, je m'arrêterai en cours de route. Alors, Yann m'avait demandé d'orienter cette conférence plutôt sur la question du terrain, comme disent les anthropologues, sur la question de la construction de l'objet, comment est-ce qu'un chercheur se confronte, vous m'entendez bien là, ça, tout va bien? Se confronte à un terrain particulier, quelle méthode il met en œuvre pour faire émerger quelque chose, pour faire dire quelque chose à ce terrain. Et donc c'est plutôt dans cette optique-là, même si évidemment dans mon propos j'intégrerai les résultats de cette enquête que tu évoquais tout à l'heure. Alors, faire une. Alors là, j'ai pris une photo qui est reproduite ici sur le livre, que éventuellement vous pouvez faire circuler, d'un grand-père avec son petit-fils, lors d'un rituel à la synagogue. Et donc, on voit ici un Sefer Torah, un rouleau de la Torah, hein, qui renferme le parchemin contenant la Bible hébraïque, qui est lu. Régulièrement à la synagogue, toutes les semaines. Alors, cette recherche est partie tout d'abord d'un questionnement collectif au sein du laboratoire auquel j'appartiens, le CUFR, le Centre d'études interdisciplinaires des faits religieux. Un questionnement collectif dans les années 2000 sur alliance, filiation, genre et sexualité dans leur rapport aux religieux. Et donc, nous interrogeons collectivement le recours à la notion d'ordre naturel dans le discours de certaines institutions religieuses qui affirment que la nature serait un ordre justifiant un certain nombre de normes religieuses. Face, d'un autre côté, au constat d'une pluralisation des modèles conjugaux et parentaux au travers des familles recomposées, adoptives, homoparentales. Donc, on essaie de travailler sur cette question filiation, genre et famille et religion. Et face au constat également d'une disjonction croissante dans les faits de l'alliance et de la filiation dans les familles recomposées, mais aussi, c'est particulièrement le cas, dans les familles adoptives. Donc, le lien entre filiation et religion rejoignait mon intérêt pour la question de la transmission, et notamment de la transmission intrafamiliale dans le monde juif, thématique que j'avais travaillée, comme tu le rappelais, sur la question des pratiques alimentaires, de la cuisine, etc. La cuisine étant jouant un rôle de vecteur de transmission des identités très important. Mais ce n'est pas l'objet de mon propos ce soir. Alors, je sais qu'il y a un certain nombre d'étudiants parmi vous, et donc la question qui se qui se pose au commencement de toute recherche. Enfin, il y a toujours un questionnement au commencement de toute recherche. J'avais dans mon entourage des personnes, couples ou célibataires, qui avaient adopté des enfants ou qui entreprenaient un processus d'adoption. Et je me demandais, ma question était celle-ci, comment est-ce qu'on peut, comment est-ce que peut fonctionner la transmission des identités religieuses, et en l'occurrence des identités juives, à des enfants non issus biologiquement de soi. Donc la question du biologique, de la filiation génétique se posait dans cet objet en construction. Comment, en d'autres termes, on pouvait construire une parenté adoptive quand les appartenances, en l'occurrence ici l'appartenance juive, quand les appartenances étaient affirmées. Qu'en était-il de l'enfant lui-même, de son identité ? Quelle représentation en avaient ses parents, son entourage et la famille élargie, les amis, etc. Mais de manière plus générale, quelle représentation est-ce qu'on a dans nos sociétés de cette question de l'adoption dans la société globale. Et donc, pour essayer de comprendre ces représentations, en tant que sociologue du religieux, je me suis posé la question des normes religieuses et des normes du judaïsme à propos de l'adoption. Quelle est la conception de la filiation et de l'identité religieuse des enfants adoptés ? Puis j'ai commencé une enquête par entretien auprès de parents adoptifs, juifs ou de couples, dont l'un des membres se définit comme juif, avec pour présupposé, peut-être que si vous avez assisté à la conférence sur la conversion de mon collègue la dernière fois, avec comme présupposé qu'on retient d'un point de vue sociologique l'autodéfinition et non pas la définition religieuse des appartenances. Et on va voir, on va reprendre cette question de la définition des appartenances religieuses. Alors, afin de compléter cette recherche, j'ai rencontré des personnes appartenant à des institutions en charge de l'adoption. En France, c'est l'aide sociale à l'enfance, hein, qui s'occupe notamment de délivrer des agréments à des futurs parents, agréments leur permettant effectivement de commencer effectivement une démarche d'adoption. Également auprès d'œuvres d'adoption, ce qu'on appelle les OAA, les organismes agréés pour l'adoption, mais également du côté religieux, un certain nombre d'entretiens auprès de rabbins. Une partie de ce terrain s'est déroulée en Israël, où on a d'autres normes légales par rapport à cette question de l'adoption, et également, surtout, une autre configuration du lien entre le politique et le religieux dans ce contexte particulier. Avec une question, là encore, les appartenances religieuses des adoptants, mais aussi des enfants à la naissance, ne sont certainement pas prises en compte de la même manière dans un pays laïque comme la France, où en principe, et je dis bien en principe, parce que finalement, en menant l'enquête, on se rend compte que entre ce principe de laïcité et l'application effective de la laïcité, il y a souvent un écart. Donc dans un pays comme la France et dans un pays où le religieux joue un rôle important dans la sphère publique, et notamment en ce qui concerne la question du statut personnel, où en Israël les institutions religieuses, hein, et le rabbinat officiel israélien, même si là la loi vient de changer sur cette question-là, a un impact très important. Et puis, sur la question de la construction de l'objet, il fallait également savoir en quoi est-ce qu'il y avait une spécificité de travailler sur cette question des familles adoptives en contexte juif. Parce que finalement, on peut dire que est-ce qu'il y a spécificité de travailler en contexte juif par rapport à l'adoption en général ? Et on va voir qu'en partie, non, mais en partie, oui, on verra pourquoi tout à l'heure. Mais également, les familles adoptives juives étaient-elles vraiment différentes des autres familles juives ? Donc on a, en fait, la spécificité de ce travail, c'est de travailler sur une minorité dans une minorité. Hein, et donc là, il y avait quelque chose de particulier. Et je me suis posé la question, peut-être pas au départ, mais très vite, en rencontrant des parents notamment, de la légitimité de travailler sur cette double spécificité. Parce que la première chose que des parents adoptifs vous disent quand vous commencez un entretien, c'est « mais on est des familles comme les autres ». Donc il y a une espèce de volonté de normalité qui s'impose dès qu'on travaille sur ce terrain-là. Et autrement dit, on n'a rien à vous apprendre. Hein. On est des familles comme les autres. Donc, sur la définition de l'objet, c'est construite au fur et à mesure, également en commençant à travailler, en commençant les entretiens avec des personnes qui étaient concernées. Donc, quelle constitution de l'échantillon et quelles sont les difficultés de l'enquête? Donc, j'ai essayé de reprendre un peu tout ça pour essayer de vous faire comprendre à quelles difficultés on est confronté quand on s'aventure sur un tel terrain. Alors, première chose, je pensais que j'aurais énormément de mal à trouver des parents adoptifs juifs. Hein, je vous l'ai dit, minorité dans la minorité. Est-ce qu'il y en avait beaucoup? J'en avais aucune idée. D'autre part, l'adoption est un phénomène encore relativement tabou, même si on verra que les représentations changent énormément. Et donc, si je trouvais effectivement des parents qui étaient prêts à parler, est-ce qu'ils accepteraient de faire des entretiens, enregistrer, etc., ce qu'on fait dans les méthodes sociologiques traditionnellement ou anthropologiques? Et donc, je partais sur ce terrain sans savoir vraiment où j'allais, mais avec beaucoup de curiosité. Et la curiosité, effectivement, c'est quelque chose, c'est une condition pour mener à bien une enquête. Et j'ai été surprise par la facilité avec laquelle non seulement je trouvais des interlocuteurs juifs, adoptants, prêts également à me recevoir et à me raconter leurs histoires. Car d'une certaine manière, quand on travaille sur ce type de phénomène, on rentre très profondément dans l'intimité des gens, parce que ce sont des récits de vie qui vous sont livrés avec toutes les difficultés d'un parcours qui va conduire des couples en général confrontés à un problème de fertilité à passer par un certain nombre d'épreuves, dont les procréations médicalement assistées, dont la demande d'agrément, dont dire à la famille quel est le projet, et puis ensuite lancer véritablement un processus d'adoption, ce qui est une démarche extrêmement longue, extrêmement difficile, et qui demande une énergie importante. Alors, il est évident que le terrain est miné d'une certaine manière, et en tous les cas, il y a un biais de l'enquête. Hein. C'est une enquête qui, par définition, est biaisée, puisque ceux qui ne veulent pas rencontrer un enquêteur, un sociologue, bien vont refuser l'entretien. Et donc, contrairement aux psys que j'ai rencontrés par la suite, hein, quand j'ai exposé mon travail, qui, eux, ont affaire à des gens qui sont souvent en échec ou en grande difficulté par rapport à la question de l'adoption, les personnes qui acceptent de rencontrer un sociologue sont au contraire des personnes qui sont relativement apaisées par rapport à cette question-là. Et ça, je m'en suis rendu compte concrètement au cours d'une interaction que j'ai indiqué là comme une interaction ratée. Il s'agissait en fait d'une mère adoptive qui avait accepté dans un premier temps le principe de l'enquête et qui, au moment de la prise de rendez-vous par téléphone, a refusé de me rencontrer. Et donc, moi, je l'avais rencontrée au cours d'une conférence qui avait été donnée par un pédopsychiatre spécialiste de l'adoption. Et donc, elle m'avait donné son numéro en me disant « appelez-moi ». Et puis, finalement, au moment où je l'ai appelée, elle me dit qu'elle ne pouvait pas répondre, qu'elle ne pouvait pas me rencontrer, que je pouvais poser quelques questions par téléphone, mais qu'il n'était pas question d'aller plus loin. Parce que, apparemment, ça a réactivé chez elle, cette rencontre avec moi, des épreuves qu'elle avait connues au cours d'un processus d'adoption qui avait été pavé de difficultés. Alors, cette jeune femme que j'appelle Florence, elle m'avait reconnue, en fait, et apparemment, je l'avais déjà rencontrée dans un cadre privé quelques années auparavant. Et moi, je suis très peu physionomiste, donc je ne l'ai pas reconnue. Et elle me dit, donc elle me laisse ses coordonnées, je la rappelle, et puis elle me dit, vas-y, pose tes questions. Et alors, je lui explique le principe de l'entretien, une rencontre, un enregistrement, etc. Et ça ne me branche pas, me dit-elle, ça remue trop. C'est comme avec un psy. Hein. Et d'ailleurs, je ne sais pas si certains d'entre vous sont sociologues ou se déclarent sociologues. Quand on dit qu'on est sociologue dans des milieux qui ne sont pas du tout au courant des différences entre les disciplines, on vous dit toujours, ah ben justement, j'ai des problèmes, vous devez savoir ça, etc. On confond beaucoup les sociologues et les psychologues. Hein, donc, c'est assez amusant. Et donc, j'ai tenté de la rassurer en disant que sa parole serait anonyme, hein, tout ce qu'on dit, enfin, y a une déontologie de toute façon de la démarche sociologique. Donc, je l'ai rassurée en disant que c'était anonyme, qu'elle n'était pas obligée de répondre aux questions, qu'elle disposait d'une, que j'étais surtout pas là pour la juger ni pour l'évaluer. Donc, on était dans un cadre complètement différent de l'obtention d'un agrément par l'aide sociale à l'enfance. Quand je dis l'aide sociale à l'enfance, on disait auparavant la DAS, hein, donc c'est ça. Hein, c'est, donc elle reste sur sa position et elle me dit, mais ça veut dire que je vais raconter mon histoire et ça remue trop. Puis elle entreprit de justifier longuement son refus en prenant l'image de la greffe. Elle me dit, elle compare le judaïsme à un sillon creusé pour préparer la plantation d'une graine. Et donc lâche la phrase suivante. Ensuite, suite à cette justification, on n'est pas des bêtes curieuses. Donc il y a cette question du voyeurisme qui entre en jeu, et c'est la question que je lui pose. Est-ce qu'elle a peur du voyeurisme? Et elle me dit non, c'est pas ça, mais nous ne sommes pas des parents différents des autres. Donc encore cette volonté de normalité. Elle raconte alors que lors de ses dernières vacances à la campagne, son fils, originaire d'Asie, donc une différence visible, hein, la question de la visibilité de la différence est très importante quand on parle d'adoption internationale, hein, pour certains pays de provenance, son fils s'est disputé et battu avec un autre enfant. Et à ce moment-là, un parent est intervenu et a grondé l'a grondé. Alors, elle vit très très mal cet épisode, parce que c'est un enfant adopté, on pense qu'il n'a pas de parents, me dit-elle, ou qu'il est à tout le monde et que tout le monde a le droit de l'éduquer. J'ai répondu, cet enfant a des parents. Et donc là, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les représentations. Je parlais tout à l'heure de représentation de la société globale par rapport à l'adoption. On va retrouver ça dans les représentations, c'est-à-dire que l'enfant adopté, d'un certain côté, on le considère comme totalement enfant de ses parents adoptifs, mais d'un autre côté, on le considère comme toujours attaché à un ailleurs, comme toujours n'étant pas totalement cet enfant-là. Et donc, si c'est l'enfant de tous, comme elle le dit, c'est aussi l'enfant de personne. Et donc, il y a véritablement un problème de représentation de l'adoption en général dans la société, dans les sociétés occidentales en tous les cas. Et puis, elle continue sur... Donc, finalement, cet entretien téléphonique, comme vous voyez, il a duré quand même un certain temps et j'en ai tiré beaucoup de choses et beaucoup de... Et c'était assez intéressant parce que c'était relativement au début de l'enquête. Donc, ça m'a permis ensuite d'aborder les parents en toute connaissance de cause, hein, les parents que je rencontrais. Et donc, elle me dit qu'elle a eu les problèmes de stérilité qu'ont connu les parents adoptifs dans la plupart des cas. Et elle me dit, à 99%, on est tous passés par les PMA, procréation médicalement assistée. À 99%, c'est elle qui le dit, on a tous eu le truc religieux, manger un œuf dur avant d'aller se coucher, c'est la seule qui m'a parlé de ça d'ailleurs, aller voir le Ravintel, donc une demande vis-à-vis d'un certain nombre de rabbins miraculeux, comme on en voit aujourd'hui beaucoup, qui va débloquer la situation, on ne sait comment, par une bénédiction, par des rituels particuliers. On en est tous sortis à peu près indemnes. L'examen blanc, c'est l'agrément. Le vrai examen, c'est l'arrivée de l'enfant. On doit prouver que l'on peut élever un enfant, que l'on peut être parent. Les gens sont remués par leur histoire. Et donc, l'entretien est refusé parce qu'il vise à, je la cite encore, nous mettre encore en examen, puis en référence à la conférence où nous nous étions rencontrés, Florence, cette jeune femme, réactive le lien entre adoption et sexualité, puisque c'était l'objet de la conférence du pédopsychiatre dont je parlais tout à l'heure. C'est parce que quelque chose ne va pas dans le lit qu'on adopte, et c'est comme si vous vous mettiez sous notre lit. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'intrusion dans l'intimité quand on recueille des récits de vie sur cette question-là. D'ailleurs, mon fils l'a très bien exprimé un jour, continue-t-elle, puisqu'il a dit « si on a un problème de petite graine, on peut adopter ». Ce refus donc de participer à l'enquête semble signifiant des tabous liés à l'adoption. Il est ici explicité au nom d'une connaissance entre l'informatrice et l'enquêtrice, par le tutoiement qu'elle instaure dès le départ dans l'entretien. Et sans cela, l'entretien aurait pu être mené, certainement mal mené, ou peut-être qu'il aurait été refusé, simplement, ou indéfiniment repoussé dans le temps, sans autre explication. Et donc, c'est en ça que je dis qu'il y a des biais dans cette enquête. Et je pense que j'ai surtout recueilli des témoignages d'adoptants qui se sentent relativement apaisés avec cette question de l'adoption, et donc pour des adoptions qui se passent bien. Ce refus révèle les représentations sociales, d'ailleurs, qui sont encore fortement partagées, d'une sexualité nécessairement procréatrice, et dans le cas contraire, elle est perçue comme en échec, comme si un lien physique ne pouvait être abouti s'il ne débouchait pas finalement sur une naissance. Et on va retrouver ces représentations dans le contexte juif par rapport à une tradition religieuse qui valorise la procréation, particulièrement la procréation et la famille, et on va le voir, la transmission. Au fond, les deux arguments avancés par cette jeune femme, peur du voyeurisme, même si le terme est réfuté, et peur d'être remuée par sa propre histoire, se rejoignent en une peur de parler, non seulement de l'adoption, mais d'une sexualité considérée comme en échec, comme s'il n'y avait pas de dépassement possible ou pas de projet commun de fonder une famille en dehors d'une rencontre de gamètes, hein, pratiquement. Mais c'est un propos relativement rare, hein, mais ça m'a permis d'être vigilante sur cette question des représentations de l'adoption. Alors, pour les autres personnes, évidemment, ce n'est pas un échantillon représentatif, hein, c'est une enquête qui est pleinement qualitative. J'ai procédé assez simplement, c'est-à-dire que j'ai demandé dans mes relations, est-ce que vous connaissez des personnes qui ont adopté, et ainsi de suite. Hein, c'est ce qu'on appelle la technique boule de neige pour rencontrer des gens. Et ensuite, les personnes que je rencontrais, je leur demandais s'ils connaissaient d'autres parents qui seraient prêts à me recevoir. Autre personne que j'ai rencontrée dans le cadre de cette enquête, ce sont des jeunes adultes qui ont été adoptés enfants. Alors là encore, il y a une question qui s'est posée assez vite. On est assez mal préparé, et je ne me suis pas du tout aventurée sur ce terrain, à faire des entretiens ou avoir des interactions dans le cadre de l'enquête avec des enfants. Et je pense que, mais il y a toute une sociologie de l'enfance qui aujourd'hui se développe pour mettre au point des méthodes de rencontre et de parole avec des enfants. Je ne me suis absolument pas aventurée là-dedans, mais par contre, j'ai rencontré quelques jeunes adultes qui avaient été adoptés enfants. Et là aussi, c'est un tout autre point de vue que celui des parents, mais ils sont très minoritaires dans cette enquête. Mais j'y reviendrai. Alors, les terrains de la recherche, il s'agit au commencement de toute recherche de définir quels sont les acteurs, ceux qui interagissent, hein, au sens weberien, pour les étudiants qui ont lu Max Weber.
Oui, vous avez lu.
Et Et vous avez aussi lu Bourdieu, donc, dans quel champ ?
En même temps.
En même temps, dans quel champ est-ce qu'ils interagissent ? Ça, c'est des choses. L'habitus, le champ, les rapports de pouvoir, etc. Donc l'adoption n'est pas seulement une affaire de famille, c'est aussi une affaire institutionnelle et politique. Donc parents, enfants, institutions en charge de l'adoption, institutions publiques ou privées, je parlais tout à l'heure des OA, des organismes agréés pour l'adoption, et institutions religieuses, on verra plus loin pourquoi. Car tout cela et toutes ces institutions, cette question de la filiation et de l'adoption en particulier, est régie par un certain nombre de lois. En France, j'ai rencontré 19 parents adoptifs, 3 jeunes femmes ayant été adoptées enfants. Et sur ces entretiens, 3 concernent des femmes seules, donc on peut adopter de manière isolée, on le sait. Un couple adopte 2 garçons rwandais suite au génocide. Et donc, c'est la seule famille que j'ai rencontrée qui a adopté pour des raisons, on va dire, purement humanitaires, c'est-à-dire que non lié à un problème de fertilité dans le couple. Mais la majeure partie des adoptants, je parle de l'adoption plénière, hein, parce qu'il y a plusieurs types d'adoption, on ne va pas rentrer dans les quand on parle d'adoption en général, on parle plutôt d'adoption plénière, l'adoption internationale, etc. Donc, la plupart du temps, l'adoption, le processus d'adoption est lancé en cas d'impossibilité de procréer. Sur alors les parents adoptants, parmi ceux que j'ai rencontrés, avaient majoritairement un niveau d'études supérieur. Mais j'ai également rencontré donc la pédopsychiatre de l'aide sociale à l'enfance, des travailleurs sociaux, notamment dans le cadre de l'espace Paris Adoption, qui est en charge pour tout Paris intramuros des questions d'adoption. J'ai également réalisé un certain nombre d'entretiens avec des rabbins, et je vous en parlerai, de tout courant religieux, et avec les responsables d'une œuvre d'adoption que je nomme Génération Adoption, et qui est en fait une œuvre qui a été créée par 2 couples juifs qui avaient eux-mêmes bénéficié qui étaient des parents adoptants, mais qui ne veulent pas apparaître comme étant une œuvre juive, parce que il y a très très peu, en fait, ce qu'il faut savoir, et dans tous les débats, ça a été assez peu dit au moment des débats sur le mariage des personnes de même sexe, il y a très peu d'enfants adoptables en France, et de toute façon, à l'étranger, c'est extrêmement difficile, les démarches sont très longues. Donc, en fait, ils ne procèdent à l'adoption que d'un ou 2 enfants par an maximum, parfois pas, hein, certaines années. Donc, en fait, et ils ne donnent pas, si vous voulez, j'entrerai dans ce détail après, d'enfants seulement à des couples juifs. Donc, en fait, s'ils apparaissent comme une œuvre juive, ils ont peur que les autres œuvres ne permettent pas à des parents juifs de procéder à des adoptions. Donc c'est assez compliqué. J'ai eu beaucoup de problèmes avec cette institution, avec cette œuvre d'adoption. Ils n'ont pas tellement apprécié en fait que je travaille sur cette question-là. Donc là aussi, il faut essayer de contourner ou d'ignorer. Enfin,
bifurquer,
comme vous dites. Alors, en Israël, j'ai également fait une partie de cette enquête. J'ai rencontré des parents adoptifs israéliens, une jeune femme qui avait été adoptée en France et qui était partie vivre en Israël. Et je me suis également entretenue avec l'assistante sociale du bureau de l'adoption à Jérusalem, le Sherout Lehman Hayeled, le bureau de l'adoption, donc. Et également avec un professeur émérite de l'Université de Jérusalem qui avait travaillé dans les années 90 sur l'adoption internationale, et il avait œuvré, alors qu'il était engagé politiquement au bureau des affaires sociales de la ville, il avait œuvré pour une réforme de l'adoption afin de mettre la loi sur l'adoption en Israël en conformité avec la Convention de La Haye qui gère qui régule, on va dire, l'adoption internationale. Alors, on voit parmi tous ces acteurs qu'il y a un type d'acteur qui est absent, totalement absent de cette enquête, et je le regrette profondément, mais c'était vraiment très difficile à mettre en œuvre, ce sont les maires. Et je dis les maires parce qu'en général, le père n'est pas là, mais les maires, ou en tous les cas, les femmes qui ont mis au monde ces enfants, parce qu'on va voir si on les appelle mères, s'il ne faut pas les appeler mères, etc., tout ça est très compliqué, qui ont abandonné des enfants à la naissance. Évidemment, c'est très difficile de les rencontrer, sauf à faire une enquête spécifiquement sur ce domaine particulier. Et il y en a quelques-unes. En tous les cas, on peut en avoir une idée en allant regarder sur les sites, les forums. Et on a notamment une association qui s'appelle l'Association des Mères de l'Ombre, qui sont une association de femmes qui ont accouché sous X, hein, en fait, qui ont accouché dans l'anonymat. Je parle des femmes en France, oui. Alors, en Israël, il n'y a pas d'accouchement sous X. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'une femme qui accouche et qui laisse son enfant pour qu'il soit adopté est obligée de laisser son identité. Donc il n'y a pas d'accouchement sous X. En France, c'est possible aussi, hein, mais bon, on a entendu ces cas... En France, ça existe encore. C'est un des rares pays où il y a l'accouchement sous X, France, Luxembourg. Et c'est véritablement une épreuve en général pour des enfants qui cherchent leurs origines par la suite. Alors, quelles sont les représentations de l'adoption, justement? Alors, oui, là, c'est ici, on a une famille israélienne qui a adopté une petite fille en Colombie, je crois. Et que j'ai rencontré. Et en fait, c'est un cas très particulier parce qu'en fait, il y a cette question du lien entre le politique et religieux en Israël. Et ils ne voulaient pas, ce sont des gens qui se définissent comme laïcs, secular Jews, hein, et qui ne voulaient pas passer par le rabbinat israélien pour obtenir la conversion de leur fille, mais ils avaient quand même. Ils avaient quand même le désir qu'elle soit reconnue comme juive. Et en Israël, le statut, il y a une différence entre la citoyenneté et la nationalité. Bon, je ne vais pas, là encore, rentrer dans ce détail. Donc, on voit... Chaque fois, je me trompe de bouton. Voilà. Ça, c'est la plaquette du Sherut Leman Hayeled, hein, du bureau de l'adoption israélien. Alors, quelles sont les représentations de l'adoption? Est-ce que c'est un don? Alors, il y a toujours cette idée... qui revient dans le discours médiatique. L'adoption est un don que des parents font à un enfant qui n'a pas de famille, etc. On a un discours extrêmement valorisant sur les parents adoptifs et sur l'adoption. Mais en même temps, et je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des représentations contradictoires par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en même temps, on dit c'est extraordinaire, ils sont très courageux, ils font des choses extraordinaires. Et en même temps, on ne les reconnaît pas comme vrais parents, vrais pères, vraies mères. Et quand je parlais des représentations tout à l'heure, les mots qu'on utilise pour parler de l'adoption sont extrêmement importants. Et très souvent, les choses dérapent et on vient très vite à employer le terme « vraie mère » ou « vrai père » pour parler des parents biologiques et non pas des parents adoptifs. Et ces problèmes, enfin, je veux dire, ça révèle bien quelque chose sur nos représentations de l'adoption. En vérité, il m'a semblé, en discutant avec des parents, en rencontrant un certain nombre, qu'ils sont entre ces deux représentation, c'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas eux-mêmes qu'ils font un don à cet enfant. Ils considèrent bien souvent au contraire que c'est l'enfant qui est un don. Alors en fonction de leurs croyances, etc., un don du ciel ou un don de la mère de naissance qui a abandonné l'enfant et qui finalement en le laissant à l'adoption fait un don à des parents potentiels. Et donc, cette question, bon, si on se réfère aux théories du don, hein, en anthropologie, on pense tout de suite à...
Quand on donne.
Oui, à Marcel Mauss, hein, laisser sur le don. Qu'est-ce que c'est, les trois obligations? Allez, je vais interroger les étudiants, on va voir si à Poitiers, les étudiants sont bien. Obligation de donner, obligation de recevoir, et obligation de... Et obligation, troisième obligation, de donner, de recevoir et de rendre. Donc, si on considère que l'adoption est un don, on se demande où sont ces trois obligations. Et donc, c'est assez dangereux. Si on considère que l'enfant adopté est débiteur par rapport à des parents adoptifs, plus que ne le serait un enfant né d'eux-mêmes, là, effectivement, ça peut poser question. Donc, moi, j'ai essayé justement de considérer l'adoption non pas comme un don, mais comme un ensemble d'échanges et de transferts, transferts d'enfants, transferts de juridiques, etc. La filiation, c'est un lien juridique, il n'est pas nécessairement un lien biologique. Et je vous renvoie à l'excellent livre de Florence Weber, que vous connaissez peut-être, Le sang, le nom, le quotidien, ethnologie de la parenté pratique, où elle montre que ces trois registre de la filiation, le sang, c'est-à-dire la filiation génétique, le nom, c'est la filiation juridique, et le quotidien, c'est la filiation sociale, bien, sont de plus en plus dissociés et peuvent être dissociés dans nos sociétés. Alors, là aussi, quand on travaille sur un tel objet, c'est assez... je veux dire, on est sur un objet qui renvoie beaucoup d'émotions. Hein, on l'a dit tout à l'heure, on rentre dans l'intimité des gens, etc. Et on parle finalement d'enfants, d'éducation d'enfants, d'amour pour des enfants. Et finalement, ce que j'ai ressenti en rencontrant ces parents, et notamment en tant que mère moi-même, c'est énormément d'amour. Hein, j'ai pas... et énormément d'attente aussi, d'attente et de volonté de s'investir totalement dans cette relation parent-enfant. À vous rendre jaloux d'ailleurs, hein, parce que quand on est soi-même mère et qu'on se dit « oh là là, j'ai du boulot » et puis « les enfants me dérangent », etc. Bon, on se dit « c'est absolument merveilleux et cette attente, cette manière de parler des enfants, etc. » Alors, quels sont les résultats de l'enquête? J'aimerais faire un tour du côté des normes religieuses. Et là, c'est quelque chose qui aussi pose question quand on travaille sur le religieux. Qu'est-ce qu'on fait du texte? Qu'est-ce qu'on fait de la loi, notamment dans une tradition religieuse qui est fondée sur une loi écrite? Est-ce que le sociologue, l'ethnologue est censé connaître ces normes religieuses? Est-ce que il est censé commencer par lire les textes, lire la Bible, essayer de trouver si on parle d'adoption dans la Bible, etc. Ou est-ce qu'il est censé travailler auprès des populations qui forment la base de son enquête? C'est un véritable problème quand on travaille sur ces questions de religion. Et on est confronté à cette question-là. Il me semble que c'est important de connaître ces normes, d'abord parce qu'elles ont un impact sur la société qu'on étudie, parce que parfois elles sont connues, ou en tous les cas, si elles ne sont pas connues dans le détail, elles sont une référence pour les personnes qu'on rencontre. Et donc, il est important de savoir quelles sont les références des enquêtés. Et puis, dans le domaine de l'adoption et du judaïsme, elles vont être une norme pour les institutions dans leur traitement, entre guillemets, de la question d'identité religieuse des enfants adoptés, en l'occurrence. Donc, je commencerai par là, hein, par essayer de débroussailler un peu quelle est... Alors, j'ai mis un point, qu'est-ce que le judaïsme? Alors, on ne va évidemment pas... Je sais pas, en plus, il me reste très peu de temps, je crois. On va pas essayer de définir ici ce que c'est que le judaïsme. Ça serait bien trop long. Mais je vais essayer de voir quelle est la représentation, en tous les cas, de la filiation dans le judaïsme, sachant, et c'est ça qui est très particulier quand on travaille en contexte juif, sachant que la religion n'est qu'une des dimensions de l'identité juive et qu'il y a énormément d'autres dimensions qui n'apparaissent pas quand on se représente ce que c'est que les juifs, puisqu'on les considère comme des fidèles d'une religion particulière. Or, il y a une variété interne. Il y a énormément de juifs qui se définissent en dehors de toute dimension religieuse, qui se disent juifs sans être pratiquants, ni même parfois sans être croyants. Énormément de juifs laïcs. Tout à l'heure, je l'ai montré à propos de cette famille israélienne, hein, et en Israël aussi, particulièrement. Et donc, c'est aussi une tradition religieuse. Et donc, on va essayer de prendre les normes religieuses comme des normes d'une tradition qui va jouer sur les représentations autour de la question de la filiation. Alors, bon, je vais aller très vite là-dessus. Un des commandements qu'on trouve dès le début dans la Genèse, croissez, multipliez. Pérou en vous, en hébreu, croissez, multipliez, qui a évidemment à voir avec notre sujet. Et en milieu juif, cette idée de la... Et en milieu juif traditionnel, hein, je précise, mais par exemple en Israël, il y a aussi, par exemple, un taux de natalité particulièrement important. On a donc cette valorisation de la procréation dans la tradition juive. Et si on se réfère au texte biblique, j'emploie le terme Bible hébraïque pour parler de ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament et de ce que les juifs appellent la Torah. Donc vous connaissez peut-être ces termes. Dans ce texte biblique, on a une histoire de la création, etc., mais aussi histoire des patriarches que vous connaissez peut-être plus ou moins en fonction de votre familiarité avec ce texte. Et dans ces histoires de patriarches et de matriarches, on a bien souvent des femmes qui sont stériles. Et donc la question de la stérilité est très présente dans le texte biblique. Et en général, elle est associée à des promesses de filiation que Dieu fait à ces différents personnages. Le mot adoption n'existe pas dans la Bible, mais certaines situations y renvoient très clairement. Alors j'en citerai deux. Les matriarches, je vous l'ai dit, sont souvent stériles dans le texte, et généralement, quand elles le sont, elles vont prendre leur servante pour assurer une descendance à leur époux. Et par exemple, Rachel va proposer à Jacob sa servante, et je vous dis quel est leur dialogue dans le texte. Elle dit « Donne-moi des enfants, sinon j'en mourrai. » Et puis, qu'est-ce qu'il répond ? Il dit « Suis-je à la place de Dieu qui t'a refusé la fécondité ?» Alors, qu'est-ce qu'on voit ? D'abord, qu'il n'est pas question de stérilité masculine. Ça, on est dans un texte qui est patriarcal, ça c'est très clair. Ensuite, donne-moi des enfants, sinon j'en mourrai. On voit que même si la Bible est remplie de d'énoncés, de généalogie, c'est ici la question de la souffrance de la femme qui est dite par le texte. Hein, donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, cette idée de la souffrance des femmes stériles. Et à ce moment-là, qu'est-ce que lui répond Rachel ? Elle dit « Voici ma servante Bila, approche-toi d'elle, elle enfantera sur mes genoux, et par elle, j'aurai moi aussi des enfants. » On est clairement dans un cas de mère portée, porteuse. Et dans un cas d'adoption, presque, puisque les enfants qui vont naître de cette relation entre Bila, la servante de Rachel, et Jacob, vont être nommés par Rachel, et elle va déclarer, suite du texte, « Dieu m'a jugé, il a écouté ma voix, en me donnant aussi un fils. » Et donc, ce fils, c'est Dan, et puis deuxième fils, Naphtali, qui sont nommés par Rachel et qui sont considérés comme elle, comme ses fils, avant que Dieu ne lui accorde un fils biologique, je dirais, qui est Benjamin, qui est Joseph, pardon, et ensuite Benjamin. Deuxième cas que l'on trouve dans le texte biblique qui renvoie à cette idée de l'adoption, c'est l'histoire de Moïse. Hein? Moïse, né de parents hébreux, est recueilli et élevé par la fille du Pharaon, et donc est élevé au cœur de la culture égyptienne. Et il va retourner à sa filiation d'origine en libérant les Hébreux de l'esclavage et en devenant leur guide et leur principal prophète. Donc, et en les faisant d'ailleurs accéder au statut de peuple. Et donc on peut faire un parallèle entre Moïse d'une part et Œdipe d'autre part. Hein, dans le mythe d'Œdipe, Œdipe va être élevé loin de son pays d'origine et de ses parents, mais il va revenir d'une certaine manière, et la prophétie se réalisera de cette manière-là, il va revenir à son origine, et c'est bien de ses parents vrais au sens du mythe que va se constituer hein, le patricide et l'inceste. Hein. Donc on a toujours ce retour à l'origine, qui est le retour à une origine biologique dans ces deux mythes, Moïse et Œdipe. Alors, dans le judaïsme, au niveau de la Bible, il y a patrilinéarité. Alors, quand je parle de patrilinéarité, je parle de l'identité des enfants nés des patriarches. On ne se pose pas la question, même quand ils sont nés de mères étrangères, on ne se pose pas la question de leur appartenance au clan dans un premier temps et au peuple dans un deuxième temps. Par contre, dans la loi juive, ce qu'on appelle la halakha, est juive toute personne née de mère juive ou convertie au judaïsme. Et ça interviendra plus tard. Donc il y a une patrilinéarité biblique et au niveau légal une matrilinéarité, au sens que c'est la mère qui va donner l'identité à l'enfant, comme dans le droit romain d'ailleurs. Le ventre de la mère est sûr, etc. Plusieurs interprétations. Et ça intervient au IIe siècle. La loi rabbinique va considérer que l'enfant de mère juive et d'un père non juif est juif, tandis que l'enfant d'une mère non juive et d'un père juif ne l'est pas. Et donc juif selon la tradition, toute personne née de mère juive ou convertie au judaïsme. Donc on a cette possibilité, je pense que ça, il vous en a parlé Sébastien la semaine dernière fois, il y a cette possibilité de la conversion qui fait que finalement cette appartenance, elle n'est pas seulement biologique, même si elle est en partie, elle peut être aussi un choix. Un choix à partir du moment où l'institution valide ce choix, évidemment. Donc ça, on ne va pas revenir dessus. Et pourquoi ça a une importance ici? Parce que les enfants adoptés sont en général nés de mères inconnues. Et donc, quand on ne connaît pas, on suppose, vu le pourcentage de juifs dans la population mondiale, que c'est en général qu'ils sont nés de mères non-juives. Et donc, ils vont être considérés comme non-juifs de naissance. Et donc, ils vont pouvoir, si les parents le désirent, être convertis par une institution. Et l'ensemble des institutions religieuses permettent cette possibilité de conversion des enfants adoptés qui ne sont pas nés de mère juive. Bon, alors en Israël, c'est un peu un cas à part, puisque on a parfois, mais pas toujours, connaissance. On a des enfants qui sont nés de mère juive. Alors, il y a quand même un principe qu'on trouve dans le Talmud qui est en opposition avec cette définition de la judéité par la mère, qui est le suivant. Celui qui fait grandir un orphelin ou une orpheline à l'intérieur de sa maison, ou qui lui enseigne la Torah, l'Écriture le considère comme s'il l'avait enfanté. Donc on a ici un principe talmudique qui équivaut à une filiation sociale. Par l'éducation, par la transmission, un enfant est considéré comme l'enfant de celui qui l'a élevé. Mais ce n'est pas ce qui a été retenu par la loi. Le Talmud n'est pas un code de loi. C'est un code de discussion de la loi, mais il ne dit pas quelle est la loi. Hein, ça, c'est très clair. Donc là, bon, on ne va pas faire une histoire des textes, ça serait trop compliqué là encore. Donc nous allons, finalement, par ce principe de la judéité transmise par la mère, arriver à l'idée que la conversion est une chose qui est possible. Il peut être converti, comme je le disais, à la demande de ses parents adoptifs ou se convertir à sa majorité religieuse. Ça nous fait envisager un autre aspect d'un travail en milieu juif. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'identité des personnes, de la loi, de la norme, mais ça fait intervenir ici, la conversion, ça fait intervenir l'institution. Et donc, quand on travaille en sociologie du judaïsme, on a évidemment affaire à des gens et on peut imaginer comment ils construisent leur identité, etc. Mais on est confronté à un moment ou à un autre, et je l'ai été aussi sur mes précédentes enquêtes sur les pratiques alimentaires, à l'institution, au label de l'institution, ici à la conversion par une institution. Alors, trois grands courants du judaïsme religieux, mais là encore, peut-être qu'il en a parlé Sébastien. Trois grands courants avec une diversité interne à l'intérieur de chacun d'eux, et ce qui nous permet d'aller contre des présupposés d'homogénéité du monde juif. Le monde juif n'est pas du tout un monde homogène. Il y a une très grande diversité, aussi bien des personnes et de leur manière de construire leur identité, de se définir par rapport au religieux ou par rapport au culturel ou par rapport à d'autres dimensions historiques, etc. On a aussi une grande diversité des institutions religieuses elles-mêmes, avec trois grands courants. L'orthodoxie, qui est le premier courant, qui est majoritaire en France, et dont le consistoire, qui est l'institution, on va dire, majoritaire, je ne dirais surtout pas officielle, ça l'était au moment du Concordat et de Napoléon, enfin pendant tout le système concordataire. Je ne sais pas si vous avez une idée de cette histoire des relations entre le politique et le religieux en France. On a un courant donc majoritaire dont le consistoire fait partie, mais il y a des courants qui sont plus orthodoxes encore que le consistoire, et d'autres un peu moins, mais qui sont quand même, qui ressemblent un peu. Et puis, on a d'autres courants, le courant qu'on appelle ma sortie, ou conservative aux États-Unis, qui est majoritaire aux États-Unis. Enfin, les courants ma sortie et libéraux sont réformed, comme on les appelle dans le monde anglo-saxon, sont majoritaires. La différence entre eux concerne le rapport à la loi religieuse, essentiellement, entre ces trois courants. Le judaïsme orthodoxe se réfère à l'ensemble légal, loi écrite plus loi orale, et le judaïsme m'a sorti ou conservatif également. Du côté libéral, la tendance est plutôt à la mise de côté de la loi orale, la mise de côté d'un certain nombre de rituels, même si les choses sont en train de changer et qu'en milieu libéral, aujourd'hui, il y a une espèce de retour à des pratiques rituelles qui sont empruntées à la tradition et qui permettent, là encore, de marquer un certain nombre d'étapes de la vie, notamment sur la question de l'adoption. Alors, sur la question de l'adoption et de la conversion des enfants adoptés, ces trois courants ont des postures un peu différentes. Et là encore, en travaillant sur la filiation, je me suis rendu compte de cette diversité que j'avais de position. Dans le courant orthodoxe, en fait, les enfants vont être convertis, les enfants adoptés par des parents juifs vont être convertis à partir du moment où les parents font preuve d'adhésion à une stricte observance de la loi, des commandements, etc. Donc on va leur demander de donner la preuve, les parents eux-mêmes, de leur conformité à un judaïsme orthodoxe, par leur pratique même. Pour le judaïsme ma sortie, on va faire confiance aux parents, je dis on va faire confiance parce que vraiment il y a des morceaux, des extraits d'entretien dans le livre, si vous l'avez un peu feuilleté, qui ne sont absolument pas tendres avec le judaïsme consistorial en l'occurrence. Donc du côté ma sortie, on fait plus confiance aux parents et à partir du moment où ils s'engagent à élever leur enfant dans une tradition religieuse, on va, enfin les rabbins vont procéder à la conversion sans trop de problèmes et dans le courant libéral également. Hein, sachant que dans le courant libéral, les choses ont évolué, c'est-à-dire que aux États-Unis, il y a une grande diversité à l'intérieur du courant libéral. Ça dépend vraiment des synagogues, des rabbins eux-mêmes. Aux États-Unis, par exemple, certaines communautés libérales considèrent que le père juif suffit pour définir l'identité juive de l'enfant. Hein, donc on va dire matrilinéarité ou patrilinéarité, c'est pareil. En France, ce n'est pas le cas. En tous les cas, pas au MJLF, qui est le mouvement juif libéral de France, qui est le principal courant sur le libéral en France. Et donc, on a des manières différentes de voir les choses. Mais en tous les cas, pour ces trois courants, ce qui est important de dire, c'est que l'institution va jouer un rôle, va mettre en place des rituels de conversion. Et pour ces trois courants, il faut une validation de la part de l'institution. Et des rites, qui sont des rites de passage, qui sont des rites de conversion, là encore, je ne vais pas revenir dessus, bain rituel, circoncision pour les garçons, etc. Alors, qu'est-ce que, très rapidement, hein, puis après je vais conclure pour qu'on puisse discuter un peu, très rapidement, l'adoption est toujours un processus d'affiliation. Elle institue un lien juridique entre des personnes qui ne sont pas préalablement liées. Et comme tout lien de parenté, c'est quelque chose qui se construit socialement. Dans ce processus, il y a une demande d'énergie particulière pour les parents, d'autant plus forte en l'absence des liens du sang. Et en fait, ce que j'ai remarqué, bon, je ne reviendrai pas sur ce qu'est le kinning pour Sidney Howell, qui est une anthropologue norvégienne de la parenté, mais ce que j'ai remarqué, qu'elle remarque à propos de l'adoption elle-même, c'est une volonté de socialiser ses enfants et de les rendre norvégiens, en l'occurrence, ou juifs, dans ma propre enquête, avec une obsession de la transmission et de la transmission d'une identité. Et les parents vont déployer une énergie extrêmement forte pour prouver qu'ils sont de bons parents et qu'ils peuvent transmettre quelque chose à un enfant. Voilà, je voudrais laisser vraiment du temps pour répondre aux questions. Ces rites, simplement, ces efforts vont passer par... alors oui, ce que je voulais aussi vous dire, c'est cette centralité de la nématique du sang et des gènes, quand on parle d'adoption, et également, avec ça, l'importance de la question de la ressemblance. Et ça, c'est quelque chose qui est très frappant. C'est qu'il y a toujours dans le discours des parents ou des enfants, des jeunes adultes qui ont été adoptés enfants, de l'idée de la ressemblance. C'est-à-dire qu'on finit, les parents sont persuadés que ces enfants leur ressemblent, physiquement, mais aussi dans l'attitude, dans la manière de parler, dans l'habitus, hein, dont vous parliez tout à l'heure, quelque chose qui résulte d'une socialisation. Donc il y a un discours sur la ressemblance qui est très, très intéressant. Ça, c'est une chose. Et puis, on a un certain nombre de pratiques. Et je pense que la parenté est vraiment quelque chose qui relève de la pratique. C'est quelque chose, il y a une pratique de la parenté. Et notamment, incorporer un enfant dans un groupe, le nommer, le convertir éventuellement. Là encore, ce n'est pas une obligation. Trouver des ressemblances, et puis des rites, et aussi du récit. L'historien américain Yerushalmi, qui est un grand spécialiste de la mémoire, des rapports entre mémoire et histoire, disait, écrit dans son livre Zahor, deux canaux charrient la mémoire, le rite et le récit. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important quand on travaille dans le monde juif, cette idée qu'on a à la fois des rituels, mais qu'à travers ces rituels, il y a quelque chose qui se raconte. Raconter l'histoire de la famille, raconter l'histoire du peuple à travers des fêtes particulières, comme la fête de Pâques, hein, la fête de Pessah, où il y a quelque chose qui se transmet à travers le récit, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Voilà. Alors, voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Juste en conclusion, trois mots. C'est cette question des frontières mouvantes. Travailler sur l'adoption, c'est toujours travailler sur des frontières mouvantes, des groupes, de la famille, et donc les frontières de la famille et du peuple sont extrêmement mouvantes et sont en train de changer avec des phénomènes comme l'adoption. Ça ne veut pas dire que l'adoption est un phénomène nouveau, mais c'est un phénomène qui se généralise et qui va avoir pour impact de changer la représentation de ce que c'est que la famille aujourd'hui et de ce que c'est qu'être juif, parce que du coup la question de l'adoption, même si elle reste très minoritaire, mais aussi la question des enfants issus de mariages mixtes, on trouve aussi cette question, c'est à peu près les mêmes impacts sur cette manière de définir le groupe d'un point de vue symbolique, d'un point de vue légal, d'un point de vue institutionnel. Voilà. Et puis, là encore, un mot de la fin, je crois que ces frontières qui sont en train de bouger doivent nous faire réfléchir sur ce que c'est qu'une conception essentialiste, naturalisante des identités religieuses et familiales, et qu'il faut s'en départir absolument. Et que donc, les vrais parents ne sont certainement pas les parents génétiques, et ce sont plutôt les parents sociaux, sans nier évidemment l'histoire spécifique de ces enfants adoptés. Voilà, donc je laisse un petit peu de temps pour, peut-être pas suffisamment, mais pour si vous avez des questions, j'espère que... Voilà.
Merci.
Écoute, merci à toi. Donc je vais jouer comme à mon habitude le passe-micro. Je ne sais pas s'il y a des questions pour commencer. Moi, j'en ai quelques-unes. Oui, je voulais le micro.
Ouais. Bon. Vos questions.
OK. Sébastien, la semaine dernière, nous parlait vraiment l'idée selon laquelle l'enquête qu'il avait menée sur les principes de conversion était une mise au jour des principes, des grands principes d'autorité que le monde religieux veut développer, et parfois y arrive et parfois un petit peu non. Là, on a l'impression que malgré tout, il y a des enjeux familiaux puisqu'il y a adoption qui sont de l'ordre de la transmission. Est-ce que tu vois des régimes d'autorité, même dans le consistoire qui se mettent en place, ou finalement, malgré les textes, malgré les bains rituels, etc., etc., et la demande faite aux familles d'être très, très, très observantes, est-ce que tu y vois un gros régime d'autorité ou somme toute quelque chose d'assez lâche? C'est ce que je voulais...
Sur le consistoire.
Sur le consistoire, parce que bon, les libéraux, les choses sont beaucoup plus simples.
Bah, oui. Ou il y a une autre...
Oui, et du coup, la semaine dernière, je crois que c'était quelque chose qui avait un peu... interroger les personnes qui étaient là, c'était sur la notion de mamzer, qui sont des notions un peu, je me souviens de vous, je crois, non, c'est peut-être de vous, je ne sais plus, qu'importe, sur la notion, entre guillemets, Sébastien la traduisait comme étant la notion de bâtard, il la traduisait comme cela, je pense que c'est pour le coup un peu...
Oui,
un peu brutal, c'est un peu brutal, mais pourquoi pas après tout, qu'importe. Est-ce que tu la vois ressortir dans les questions de sociologie de l'adoption? Voilà les deux premières questions que je voulais te poser. Tu veux faire une série de questions ou tu veux...
Oui, je veux bien,
okay.
Je note.
Ok.
Peut-être il y en a qui se rejoignent. Donc,
mm-hmm. Ouais, vous y allez court.
Ouais, bon, j'allais demander quelle serait la place du bâtard, comme il avait dit Sébastien, dans la conversion.
D'accord.
Pour une famille. Là, on y passe, c'est fait. Alors, mais quelle sera alors, vous, en tant qu'entité sociale, socialisée, et le risque d'un cliquage que vous avez pu connaître lors de la rédaction de ce présent, de cette recherche? Je veux dire quoi? Quelle a été votre altérité par rapport à la recherche? Vous êtes une entité sociale, vous parlez d'adoption de mères biologiques, de mères, je sais pas, adoptives, tout ça. Mais quelle a été votre relation par rapport à tout ça? Quel a été l'impact de tout ça dans votre rédaction? Je veux dire ça.
Bon, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, hein, mais bon, je veux bien revenir dessus. Oui.
Alors, je commence d'abord par féliciter Madame pour l'exposé, c'est très clair. J'en profite pour poser des questions qui, normalement, premièrement, c'est l'adoption. Vous avez dit que, est-ce que c'est alors, l'enfant adopté un don pour le parent ou, alors, est-ce que l'adoption, est-ce bien un don pour le parent ou est-ce que c'est l'enfant qui a reçu ce don-là? Et si on remonte, par exemple, à l'histoire du peuple d'Israël, par exemple, vous parlez de Genèse. Il y a Sarah, par exemple, qui a demandé aussi à Abraham, c'est pareil que Jacob, alors que Agar, exactement, d'aller vers Agar, et puis après, il y a eu Ismaël, la naissance d'Ismaël, mais après, quand Sarah a eu son propre enfant, et c'est Isaac, il a rejeté un peu Ismaël. Je me suis demandé, un peu dans ce contexte-là, à quoi sert l'enfant? Est-ce que ce n'est pas bien une sorte de oui. don plutôt pour les parents? En fait, ça laisse à interpréter. En fait, j'attends votre explication. Et puis, vous parlez aussi de... Alors, c'est concernant les parentés symboliques comme ça. Est-ce que l'adoption et les parentés symboliques, est-ce que c'est pareil ou... Bon, en fait, c'est ça. Un peu dans la
vous
conception de
Lévi. Vous parlez du parrain marin dans la tradition chrétienne, par
alors,
exemple.
Alors exactement, c'est assez intéressant. Ou du moins aussi, on peut rester dans la conception de Lévi-Strauss avec parents comme symbolique, la parenté plutôt sociale, quelque chose de social. D'accord. Merci.
Voilà, bah je réponds déjà à ça.
On a des étudiants cultivés et élégants. Hein.
Oui, oui, je vois, et puis qui
on refera une série de questions après.
Oui.
Okay.
À quelle heure?
Non, vous avez...
D'accord, très bien. Alors, sur la question du régime d'autorité du consistoire, moi je crois que le monde orthodoxe a peur, en fait. Il y a cette idée qui est extrêmement présente, en France surtout, parce que finalement l'orthodoxie israélienne est peut-être beaucoup plus... Il m'a semblé beaucoup plus tranquille avec tout ça. Il y a la peur d'une disparition collective, la peur de la fin du peuple juif. Ça, c'est très, très clair. Et du coup, il me semble que l'autorité qui est mise en place au sein du monde orthodoxe en France et en particulier du consistoire est une autorité qui relève de cette peur et donc une crispation autour du religieux extrêmement forte. Que l'on ressent totalement. Mais je veux dire, ce qui. Et donc, on a effectivement une volonté de mise en place d'un régime d'autorité sévère, j'allais dire, ce qui conduit à décrédibiliser totalement l'institution. Et ça, je veux dire, c'est le paradoxe. C'est-à-dire qu'un un régime d'autorité si sévère est souvent arbitraire. On le voit très bien dans les propos des parents qui sont passés par le consistoire pour une conversion d'un enfant. Il parle, il montre comment cette institution met en œuvre un arbitraire extrêmement grand. Et du coup, ils ont plusieurs stratégies. Soit la stratégie de l'évitement, c'est-à-dire qu'ils s'adressent d'office à d'autres institutions parce qu'ils anticipent la difficulté de passer par le consistoire. Soit une stratégie de mensonge, c'est-à-dire qu'ils vont... faire de fausses déclarations, ils vont se faire passer pour des gens très pratiquants, etc. Et finalement, ils vont contourner comme ça, histoire d'avoir un papier, un label, et après, ils n'ont rien à faire. Ou bien, autre stratégie que j'ai rencontrée, et je pense qu'on la rencontre dans ce contexte-là, et je ne pense pas que Sébastien, en tous les cas, il n'en parle pas dans son livre sur la conversion, mais moi, j'ai rencontré très fortement, c'est une stratégie de lutte, de voice, hein, au sens de Hirschman. Si certains connaissent cet auteur, c'est-à-dire de revendication. Et en fait, d'une certaine manière, contrairement à la conversion de personnes qui ne sont pas juifs ni par le père ni par la mère, là, on a deux, en général, hein, quand c'est un couple, on a deux personnes qui sont juives, qui n'ont pas de, dont on ne remet pas en question l'identité juive, et qui veulent obtenir quelque chose pour un enfant qui vient de l'extérieur. Et là, ils sont prêts parfois à menacer. Alors, il y a des parents qui m'ont raconté qu'ils ont carrément menacé les rabbins du consistoire de se convertir tous les deux au christianisme, ou d'enlever la mezouza à la porte, ou d'aller acheter tout de suite en sortant, un rôti de porc à la boucherie du coin, etc. En fait, l'argument des orthodoxes pour éviter la conversion d'un enfant dont les parents ne seraient pas orthodoxes eux-mêmes, c'est de dire, on va convertir un enfant, on va le rendre juif, et on sait très bien qu'il va transgresser puisque vous n'êtes pas dans un modèle orthodoxe. Donc, donner une conversion pour aboutir à une transgression, nous, on ne veut pas de cette responsabilité-là. On ne veut pas mettre des gens dans une transgression religieuse. Voilà, les conséquences seraient trop grandes, ce n'est pas notre rôle. Si vous voulez vous convertir à votre judaïsme, à vous, vous n'avez pas besoin de moi. Ils ont pas tort, hein, d'une certaine manière. Après tout, pourquoi cette volonté absolue? Bon, là, je vous renvoie aux travaux de Sébastien. Certains parents les mettent devant d'autres responsabilités. C'est-à-dire, oui, vous allez avoir une autre responsabilité, c'est-à-dire que pour l'instant, vous avez deux parents juifs et un enfant qui ne l'est pas halakhiquement, enfin, du point de vue de la loi religieuse. On sort de ce bureau et vous aurez trois personnes qui auront complètement quitté le religieux. Donc, ça peut marcher. Enfin, il y a certains cas où ça a marché, où les gens ont fait des pieds et des mains, etc., et où ça a très clairement marché. Voilà. Ce qu'attendent en principe les rabbins du consistoire, c'est qu'il y ait l'engagement d'un processus de ce qu'ils appellent teshuva, etc., d'une réflexion. Mais il y a une exigence quand même d'une stricte orthodoxie qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Hein. Par exemple, ils demandent un certificat de l'employeur disant que la personne ne travaille pas le Shabbat, un certificat du rabbin disant que la personne va bien aux offices religieux, etc., etc. Donc il y a quand même un certain nombre de contraintes. Voilà sur l'autorité. C'est-à-dire que d'un côté, ça décrédibilise. Et d'un autre côté, il y a cette peur qui fait que ça se radicalise. Il y a une radicalisation de toute façon du consistoire qui a été observée par beaucoup de sociologues. Hein. Voilà. Alors sur la question du mamzer, cette question se pose quand l'enfant est juif. Quand il ne l'est pas, il n'y a pas de risque de mamzerout, puisque le statut de mamzer ne s'applique qu'à des enfants juifs de naissance. Donc finalement... pour les gens qui sont très orthodoxes et pour éviter ça, ils préfèrent d'ailleurs adopter des enfants certainement non juifs et les convertir plutôt que de risquer d'adopter un enfant mamzer. Voilà, c'est le cas se pose surtout pour ça, par rapport à cette question du mamzer. Alors en Israël, c'est peut-être un peu différent, effectivement, parce que là, on ne sait pas. Mais enfin, en général, y compris pour certains décisionnaires orthodoxes, tant qu'on ne remue pas trop la question, tant que personne ne sait, voilà, on n'en parle pas. C'est une véritable question, hein, cette question des mêmes airs. Mais enfin bon, ce n'est pas ressorti dans l'enquête, quasiment pas, sauf dans le discours des rabbins qui mettent toujours cette question à l'ordre du jour. Mais chez les parents, ni même chez les enfants, on n'en parle pas. Quasiment pas. Voilà. Alors, oui, alors votre question sur le texte. Alors, je ne suis pas spécialiste de la Bible. Hein, je me suis confrontée à la norme religieuse et au texte. Mais effectivement, il y a cette histoire de Sarah et de Abraham, du premier enfant qui est Ismaël, et du deuxième enfant Isaac. Enfin, c'est un des grands... différences d'interprétation entre l'islam et le judaïsme, hein, notamment sur le sacrifice de Isaac. Est-ce que c'est Isaac qui a été sacrifié? Est-ce que c'est, enfin, qui a failli l'être, hein? Est-ce que c'est Ismaël? Ça reste une question. Il y a une question de désengendrement et la Bible hébraïque va évidemment faire passer les engendrements légitimes par Isaac et non par Ismaël. Hein. Effectivement, il y a toujours les enfants par qui passe la légitimité qui va aboutir à la notion de peuple. de la même manière entre Jacob et Ésaü, hein, par exemple. C'est-à-dire qu'on a aussi la légitimité qui va se passer par Jacob. Et d'ailleurs, Jacob, le deuxième nom de Jacob, c'est Israël. Donc les enfants d'Israël, c'est en fait les enfants de Jacob dans un premier temps dans la Bible. Donc on a une légitimité des engendrements qui va donner finalement naissance au peuple lui-même. Et à chaque fois, il y a des enfants qui... des descendants qui vont être laissés de côté dans cette... Mais effectivement, il n'y a pas la même appropriation de Ismaël par Sarah, comme c'est le cas de Dan et Naphtali par Rachel. Voilà, peut-être sur l'impact d'un tel travail... sur le sociologue, bon, bah, j'en ai un peu parlé. Hein, c'est très passionnant de travailler sur la filiation. C'est très passionnant de travailler sur l'adoption. On entend des récits extrêmement émouvants. Donc, on est beaucoup dans l'émotion. Et puis, on découvre des manières de construire les identités très spécifiques, finalement, qu'on n'entend pas tellement par ailleurs. Et notamment dans la rencontre avec les jeunes adultes qui ont été adoptés enfants, la question de la recherche des origines. Ça, c'est des choses qui sont très, très intéressantes. Et on voit bien que le point de vue des parents adoptifs est totalement différent de celui des enfants qui ont été adoptés. C'est-à-dire que les enfants qui ont été adoptés d'une certaine manière, se poser des questions sur leur filiation par le sang. Se poser des questions sur à qui ressemble, la question de la ressemblance joue aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on sait qu'on ressemble ou qu'on a peut-être des maladies héréditaires qui viennent d'ailleurs, mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment, et ça reste en question. Certains vont jusqu'au bout d'une démarche de recherche des origines. C'était le cas d'une des jeunes femmes que j'ai rencontrées, qui a été adoptée en Israël par des parents français qui avaient fait leur alia, qui étaient partis s'installer vivre en Israël, et qui a retrouvé, puisqu'il n'y a pas d'anonymat, sa mère de naissance, et qui, alors au départ ça se passe par l'institution, hein, par le bureau de l'adoption israélien, et puis ensuite elle s'est débarrassée des assistantes sociales assez vite et a commencé à construire une véritable relation avec sa mère de naissance, la questionner sur son histoire, etc. Et là, ce que j'ai montré sur ce cas-là, c'est qu'il y a une volonté non pas de choisir une filiation plutôt qu'une autre, mais de cumuler des filiations. Et donc, il y a un cumul des filiations qui fait une histoire absolument enrichie et une certaine liberté de passer d'un monde à un autre aussi. Hein. Et c'était très, très intéressant, ça.
Tu sais, en Israël, moi, quand j'y étais le mois dernier, mais tu as bien dû voir passer ça parce que tu y étais aussi, il y avait la question aussi des homoparentalités.
Oui.
Et le rabbin de je ne sais plus quelle communauté libérale de Jérusalem-Ouest qui faisait la promotion de l'adoption dans son propre couple homosexuel, etc.
Oui, alors ce qui est déjà passé il y a un certain nombre d'années, c'est une loi permettant dans un couple de même sexe au conjoint d'adopter l'enfant du compagnon ou de la compagne. Ça, c'est déjà une loi qui était passée il y a quelques années. Non, là, ce qu'il y a de nouveau et qui a été très, très récemment voté, c'est la possibilité de reconnaître les conversions par d'autres mouvements que le rabbinat de la rabbanoute israélienne, hein, c'est-à-dire que des rabbins, justement, conservatifs ou libéraux, peuvent procéder à des adoptions qui sont prises en compte dans l'état civil, si on peut dire que c'est civil, du coup, d'un citoyen israélien. Voilà. Et puis, il y a des projets de loi sur un mariage civil qui n'existent pas. Je finis juste de répondre aux questions, puis je vous redonne la parole. Bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire du don. Je crois que j'en ai parlé. Et sur la question des parentés symboliques, c'est pas symbolique du tout, hein, la parenté adoptive. C'est vraiment une parenté légale, sociale, et pas seulement symbolique. Donc voilà, ça c'est très très clair. On le voit bien quand on rencontre des parents, ils sont totalement parents de leurs enfants. Oui, oui, bah, allez-y. Bon, on avait dit jusqu'à 8 heures, il nous reste 5 minutes. Donc,
Moi, j'ai une question, je ne sais pas si elle est très pertinente, mais c'est sur la question du vrai parent et de la ressemblance, justement. Enfin, petit détour. Platon, dans la République, il pose les principes de la cité idéale. Et parmi ces principes-là, il y a l'idée de prendre les enfants à la naissance à leurs parents pour qu'une fois replongés dans la cité, ils voient dans chaque personne un parent potentiel et pour que les parents voient en chaque enfant un enfant potentiel pour faire en sorte que les citoyens soient des meilleurs citoyens. Et moi, ma question, c'est est-ce que les enfants adoptés, à un certain point, voient dans chaque personne qui pourrait avoir l'âge d'être leur parent un parent potentiel et aurait une meilleure attention aux autres ou, essaierait de faire en sorte de participer plus à des vies associatives ou, voilà.
Je n'ai pas repéré ça tout dans l'enquête. Est-ce qu'il y a... Non, je crois qu'ils ne se posent pas tant de questions. Pour eux, il y a ce questionnement qui reste, qui pourrait être... Il y a aussi parfois l'idée que leur destin aurait pu être différent. Mais... À la limite, c'est plus les parents adoptifs qui disent finalement, si ça n'avait pas été moi qui avais adopté cet enfant, il aurait eu un tout autre destin. Et par rapport à la question de l'identité juive, notamment. C'est-à-dire que parfois, les parents se disent, mais finalement, est-ce qu'on ne les met pas, ces enfants, dans des situations difficiles? Il y a de l'antisémitisme. On leur transmet une histoire douloureuse quand dans des familles dont un certain nombre de membres ont été exterminés au cours de la Shoah. Donc, il y a ce questionnement. Ou bien, sur la circoncision, il y a aussi un questionnement. C'est-à-dire, finalement, est-ce que... on a le droit de circoncire ces petits garçons. Alors évidemment, vous voyez bien comment dans le débat public, la question de la circoncision est importante et présente. Donc ils se posent aussi cette question, les parents. Ils ne sont pas complètement à côté, mais en même temps, ils y répondent très simplement, c'est-à-dire, bon, ben, on fait comme on aurait fait avec des enfants nés de nous. Et donc, on fait comme ça, on transmet ce qu'on a à transmettre. On ne pourrait pas faire autrement. Mais la question est quand même posée, c'est ça qui est intéressant. Plus peut-être par les parents que par les enfants eux-mêmes.